Je le lis, enfin ce soir, ici, en privilégiant des grands thèmes et des grandes problématiques, et donc je ne me préoccupe pas de l'évolution de ces concepts dans le temps, qui existent, parce qu'il a beaucoup remanié des concepts, enfin c'est les mots qu'il utilisait, mais je crois qu'il y a quand même des grands thèmes qui peuvent être isolés. Bon, donc, Lacan et les femmes. Et d'abord, sur le plan privé, on sait que Lacan aimait les femmes, et qu'il a eu un certain nombre de maîtresses, contrairement là à Freud, qui lui était strictement monogame. Donc, de ses maîtresses, de ses femmes, Lacan a certainement beaucoup appris, de même qu'il a beaucoup appris également de ses analysantes, même s'il ne nous a pas laissé de récits de cas, contrairement là encore à Freud, qui nous a transmis des cas extrêmement connus, que sont Dora, notamment, ou la belle Boucher. Alors, quand je dis que Lacan ne nous a pas laissé de cas, il y en a tout de même un, qui est extrêmement connu, qui est celui du cas Aimé. Et Aimé signe l'entrée de Lacan sur le champ de la psychanalyse, de l'écriture et de la réflexion sur la psychose. Qui est Aimé? C'est une malade que le jeune Lacan suit à Sainte-Anne en 1931. Elle a tenté d'assassiner une actrice célèbre. Son délire paranoïaque est fait de thèmes de grandeur et de mission suprême. Lacan s'intéresse à sa psychose et il en fait l'objet de sa thèse de médecine. Il montre qu'Aimé développe une paranoïa d'autopunition et que son geste criminel est tout aussi bien dirigé contre elle-même. Donc il a beaucoup appris avec elle, au point qu'on accusera par la suite Lacan de lui avoir dérobé ses textes et finalement sa vie. Aimé sera la seule de son espèce, si l'on peut dire, mais il y a d'autres femmes, d'autres grands thèmes de femmes ou de grandes figures de femmes dans l'enseignement de Lacan, et allons-y y voir, même si évidemment on ne peut pas les visiter toutes ce soir. Alors tout d'abord, de façon générale, la femme et sa place dans l'amour et ailleurs. Il saute aux yeux que les chagrins d'amour, surtout ceux des autres, sont un peu ridicules dans leurs excès, surtout quand on les rapporte à la personne, somme toute assez banale, qui les cause. C'est surtout vrai pour les autres, évidemment, pour soi-même, on y voit moins clair. Pour Lacan, le comique de l'amour apparaît dans la pièce de Molière qu'il a commentée, L'école des femmes. On a affaire à un barbon et à une jeunette, Agnès, qu'il se réserve pour ses vieux jours quand elle sera parvenue à éclosion. Il la fait élever à l'abri de tout contact avec les hommes et des réalités de l'amour. Sous cloche, donc. Venons-en au regard que Lacan porte sur notre barbon. En se construisant un objet sur mesure, le vieux fait un calcul sur l'amour. Enfin, il essaie parce qu'évidemment, il échoue à s'en faire le maître. On s'aperçoit très vite que le maître, c'est elle, Agnès, et elle va échapper à Arnolf. Réduire les mystères de l'amour à du savoir, c'est rêver. Mais il y a quand même des gens qui tentent le coup, évidemment, ce sont toujours des hommes. Les femmes qui tiennent à préserver les secrets de leur charme sont notoirement plus prudentes. Certes, la psychanalyse détient un savoir sur l'amour, mais c'est un savoir partiel. Il porte sur deux éléments. D'abord sur la perte de jouissance, puisqu'il faut renoncer à quelque chose pour aimer, d'où le cri d'Arnolf dans l'école des femmes, « Que dois-je faire? Faut-il que je m'arrache la moitié des cheveux ?» Ensuite, la psychanalyse donne des éléments sur les conditions de l'amour. Pour chacun, elles sont différentes, mais elles existent, car l'amour demande des affinités inconscientes entre un homme et une femme, qui portent sur un certain regard, une tonalité de voix, un sourire énigmatique, etc. Et oui, c'est à cause de ce type de détails que nous rencontrons toujours le même type de partenaire, le même genre de personne. À la question lancinante qui taraude les amoureux, « Il m'aime, mais qu'aime-t-il en moi ?», la réponse serait « Il ou elle aime un morceau de corps ». Et c'est ce que révèle la métaphore biblique de la côte d'Adam. Chacun vise l'autre pour y prélever son plus de jouir à soi. Selon Lacan, l'homme et la femme ne se rencontrent pas. Chacun se contente de tenter de s'emparer d'une partie du corps de l'autre. Comme nos histoires d'amour font leur lit de détails, on n'y comprend rien et on comprend encore moins les histoires d'amour des autres qui semblent parfois défier tout bon sens. Ces conditions de l'amour si essentielles masquent le fait que, selon Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel. On revient plus loin sur cette phrase énigmatique. Il n'y a donc pas de mode d'emploi de l'amour. Pourtant, il faut bien que l'un des deux partenaires s'adapte à l'autre, et pour Lacan, encore une fois, c'est la femme qui fait le travail. Lacan prétend qu'elle se prête au fantasme masculin, et pour entrer dans son cadre, elle fait même bien des concessions, déployant une mascarade qui lui permet de correspondre au casting, ça c'est mon mot, hein, c'est pas le sien, suggéré par son partenaire. C'est l'homme et son désir qui commandent au couple, et la femme fait preuve d'une grande souplesse pour se mettre en affinité avec l'inconscient de son homme, ce qui lui permet d'ailleurs de s'accorder à des hommes très divers, potentiellement, puisque à chaque fois qu'elle change, elle peut s'adapter de façon différente à ses partenaires successifs. Sa complaisance est donc même sans limite, affirme Lacan. Que peut-on penser aujourd'hui de cette théorie de Lacan ? Serait-elle démodée ? Si la femme ne peut échapper à cette universalité du fantasme masculin, la libération de la femme n'aurait-elle rien changé ? On comprendrait alors que certaines féministes extrémistes militent contre la relation sexuelle. Si les hommes et les femmes ne couchaient pas ensemble, il n'y aurait plus de problème entre les sexes. Que cela plaise ou non aux femmes, qu'elles s'en servent pour vivre comme elles l'entendent ou pas, le docteur Lacan, inspiré par Lévi-Strauss, prétend qu'elles occupent une position d'objet. Tout se passe comme si la femme passait de l'ordre du père à celui du mari. Selon Lacan, la femme circule dans les arbres généalogiques, car la famille est une institution patriarcale qui ne sert à rien d'autre qu'à régler l'échange des femmes. On voit qu'il s'est beaucoup inspiré des Lévi-Strauss sur ce point. Celui qui prend une femme à une autre famille devra une fille à la génération suivante. Pour autant, peut-on dire que la psychanalyse est misogyne ? Alors, moi je pense qu'elle l'est beaucoup moins que le monde politique ou les milieux économiques. C'est probablement la psychanalyse au XXe siècle qui a donné le plus de place aux femmes qui la pratiquaient. Dans cette profession, les femmes ont effectué des apports d'envergure, je pense notamment à Mélanie Klein, Hélène Deutsch, Françoise Dolto et beaucoup d'autres. Alors, la question c'est de savoir pourquoi. Alors, peut-être parce que si la femme est en position d'objet, le psychanalyste l'est aussi dans la cure, et ce n'est aucunement dépréciatif, puisque c'est cet objet qu'est le psychanalyste dont l'analysant va se servir. Est-ce qu'on peut dire que la femme et le psychanalyste, même combat ? Toujours est-il qu'aujourd'hui, la psychanalyse est un métier très féminisé, au point que Lacan, toujours gracieux et aimable, prétendait que Freud avait laissé la psychanalyse, je cite, aux mains des femmes et peut-être aussi des maîtres sots. Donc je ne commente pas parce que ça peut être une phrase qui peut être lue de façon extrêmement désagréable. Alors je vais passer à une autre sorte de femme, puisque là j'ai suivi un fil un peu, disons, transversal, la dame de l'amour courtois. Donc rien n'est écrit ni maîtrisé d'avance dans l'amour, sauf évidemment s'il n'est pas consommé, parce que là on sait à quoi s'en tenir. L'amour courtois, puisque l'amour courtois, c'est un amour qui ne se consomme pas, a beaucoup intéressé Lacan et a été inventé à l'époque de la féodalité chrétienne, en un temps où l'homosexualité était un peu passée de mode. Dans cette forme d'amour, l'amour courtois, c'est une forme d'amour un peu spéciale, la dame est idéalisée, elle est placée sur un piédestal et on n'y touche pas. Elle est donc froide, inhumaine et dit toujours non. Pour Lacan, à quoi sert l'amour courtois ? Si le chevalier fait l'amour à sa dame, ce n'est certainement pas pour conclure. Dans cette affaire, le sexe est reporté, il est reporté sans délai, et ce n'est pas juste un jeu de séduction, car le chevalier est tout entier dévoué au service de son élu. Voilà quelque chose d'assez énigmatique pour nous qui vivons, il faut bien dire, aujourd'hui. L'amour courtois est aussi un mystère pour la psychanalyse. Il n'est pas une affaire de morale, dont toute l'histoire de l'humanité prouve qu'elle s'en fiche comme d'une guigne. Tout ce que l'on peut en dire, c'est que l'amour chaste sert à sublimer, à écrire des poèmes par exemple. Il a servi aussi à dégourdir les hommes, à leur apprendre à faire des ronds de jambes, et on peut même, en poussant les choses à l'extrême, enfin Lacan n'hésite pas, à dire que la politesse vient de là. En fait, ce service de l'amour cache le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel, pour reprendre cette fameuse phrase lacanienne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel ? Alors, selon lui, ça signifie que la rencontre sexuelle ne peut pas s'inscrire dans un système de représentation. Quand l'homme et la femme copulent, cela ne fonde pour eux aucune identité. Ce n'est pas pour autant que l'homme peut se prendre pour un homme ou la femme pour une femme. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'en général, il recommence, et on ne recommence que ce que l'on rate, c'est bien connu. Puisque les protagonistes ne se comprennent pas, il ne peut y avoir de dialogue, ce qui explique que le savoir sur le sexe soit toujours en déficit. On peut même se demander si ce n'est pas précisément à cause de cette carence de savoir sur le rapport sexuel qu'il y en a qui s'acharnent à accumuler des diplômes, des titres, voire, pour les plus ambitieux, à inventer la science. Donc, l'amour courtois exclut le sexe, alors on ne s'aperçoit pas que ça capote, si j'ose dire. Bien sûr, c'est une feinte, mais Jacques Lacan en salue l'élégance. En plus, être privé de quelque chose n'est pas dénué d'un certain charme. Parce que le chevalier, au fond, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut désirer, il voue à sa dame un amour platonique, par nature désincarné. Son objet de passion n'a aucune réalité charnelle, c'est donc en quelque sorte un amour inhumain. Dans la poésie, cet incroyable attachement a fait des émules, note Lacan. Par exemple, Dante est fou de sa Béatrice, mais il ne l'approche jamais. Elle s'impose comme sorte de grand autre absolu, sublime, ce qui veut dire aussi méconnu et inaccessible. Non seulement le poète ne la touche pas, mais tout ce qu'il obtient d'elle, c'est un battement de cils qui est la cause de toute son œuvre, paraît-il. Conclusion d'une histoire sans conclusion possible, l'amour courtois est un jeu autour de l'avoir et de l'être. Et au-delà, il y a le rien, ce qui pour Lacan n'est pas rien. Alors maintenant, je vais vous parler de la femme et la mère. La mère, autant le dire tout de suite, n'a pas toujours bonne presse auprès des psychanalystes. Il est difficile pour l'enfant de se démarquer de la volonté de la mère, à laquelle tout enfant est soumis comme à un caprice, et qu'il appréhende, donc il appréhende la mère dans ses allées et venues, ses absences et ses retours. La mère peut faire des dégâts si sa volonté n'obéit pas à la loi qu'introduit le père, qui est d'abord une fonction symbolique. Pour un enfant, s'identifier au désir de la mère, c'est vouloir être le phallus qui lui manque, place à laquelle il se met si le désir de celle-ci n'est pas apprivoisé par une loi. Donc, selon Lacan, la vraie question qui se pose, c'est être ou ne pas être le phallus, ce qui pourrait se traduire ainsi, complémenter le désir de la mère, ou bien exister de façon autonome. L'idéal étant évidemment d'exister de façon autonome, enfin d'apprendre en tout cas pour l'enfant, d'apprendre à exister de façon autonome. La mère est celle qui a et qui répond ses bienfaits, ou alors qui s'y refuse, qui ne répond pas et qui n'est pas là. Elle est donc une sorte de grand autre de la demande, la puissance qui donne, ou pas, le biberon, les tartines au chocolat ou le verre d'eau. La psychanalyse oppose la mère à la femme, qui, elle, à l'opposé, est un être qui manque. La femme n'a pas le phallus, c'est dire qu'elle est pauvre, et c'est sa nature. Si elle est, c'est au détriment de l'avoir, ce qui explique qu'elle aime passionnément le rien. D'ailleurs, une publicité pour un magazine féminin, apparue à la fin de l'année 2000 à l'arrière des bus parisiens, le disait « Un rien fait le bonheur de la femme, mais pas n'importe quel rien ». Faisons à présent appel à des stéréotypes. La femme et la mère. Donc, prenons la mère. D'un côté, donc, c'est la richesse, sous la physionomie d'une grosse dame en tailleur Chanel, au chignon combatif et au menton volontaire, que l'on appelait jadis avec considération Madame Mère. De l'autre, la femme, le dénuement, toujours attirant chez une femme, comme dans les contes du prince et de la bergère. Pour un homme, il y a souvent une séparation entre les deux, d'une part la femme qu'il aime, et d'autre part la femme qu'il désire. Le film de Jean Eustache, La maman et la putain, montre du reste Jean-Pierre Léo, acteur culte de la nouvelle vague, partagé entre deux femmes, qui sont très différentes. Donc, femme ou mère, on peut dire que c'est un choix. Aux femmes de décider seules, si elles veulent être femmes ou bien mères, car la psychanalyse n'est pas nataliste et elle n'encourage pas à procréer. Elle n'encourage pas non plus à ne pas le faire. Être une femme est difficile à assumer, ce qui explique que souvent, la femme désire des enfants pour venir combler un manque. Selon Freud, l'enfant est le substitut du pénis qu'elle n'a pas. La maternité serait-elle une solution honorable à la féminité en en cachant le refus ? Il y a un certain nombre de femmes qui, quand elles deviennent mères, refusent d'être femmes, par exemple en rejetant le père de leur enfant. Avoir un enfant n'est pas non plus facile pour un homme. Faire d'une femme une mère peut le conduire à l'impuissance. C'est que pour Lacan, la femme incarne la différence, alors que la mère est toute, elle est une, ce qui peut sembler écrasant. Quand la mère contamine la femme, ça peut mener un couple à l'adultère ou au divorce. Cependant, il y a de l'espoir. Certes, dans l'inconscient, il existe une antinomie entre femme et mère, mais il n'empêche que les bonnes mères demeurent malgré tout des femmes. La mère, entre guillemets, suffisamment bonne, selon l'expression du psychanalyste Winnicott, est celle qui n'est pas toute consacrée à son rejeton. Elle le laisse respirer et s'épanouir. Restant une femme, elle préserve la place du désir hors de sa relation avec son enfant. Comme le dit Lacan, elle n'est pas toute à son enfant, mais elle n'est non plus pas toute à son compagnon, car être une femme, c'était toujours un peu ailleurs et ne pas appartenir complètement. Continuons sur le thème de la mère, avec Médée, qui est donc une héroïne de la mythologie grecque, et elle a retenu l'attention de Lacan. Elle n'hésite pas à commettre un acte extrême en tuant ce qu'elle a de plus cher, donc ses enfants, lorsqu'elle découvre que leur père, Jason, l'a trompée. Elle frappe alors le volage Jason dans ce qu'il et elle ont tous deux de plus cher, c'est-à-dire leur descendance. Donc elle se venge, mais en même temps, elle se frappe elle-même en les sacrifiant. Cette meurtrière est à sa façon hors la loi. C'est que, selon Lacan, la femme n'est pas toute dans la loi, elle n'y est pas toute contenue, contrairement à l'homme. Pour Lacan, Médée est une vraie femme, à savoir une extrémiste, et Jason, un homme conforme aux stéréotypes, et entre autres ce qui se traduit par le fait que quand ça l'arrange, il est prompt à vouloir oublier que la femme sommeille sous la mer. Alors maintenant je vais passer à une autre figure que j'aime beaucoup, qui est donc Antigone, qui va jusqu'au bout de son désir. Alors donc Antigone, c'est également une héroïne de la tragédie grecque, comme Médée, et elle, c'est vraiment une véritable héroïne. C'est une jeune fille, donc pas comme les autres, qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est d'en faire mort. Cette héroïne tragique de Sophocle, Jacques Lacan l'a revisitée avec passion. Alors, que nous dit-il sur Antigone? Elle est celle qui dit non, elle refuse la loi de Créon, qui interdit d'enterrer le corps de Polynice étant le frère d'Antigone, et Polynice est tout à la fois donc le frère d'Antigone et l'adversaire de Créon. Et comme Polynice est un ennemi de la patrie, il verra sa dépouille livrée aux chiens, c'est ce qu'a décidé Créon. Antigone ne peut l'accepter et, s'opposant à la loi de Créon, elle périra enterrée vivante. Cette curieuse figure, dont la détermination et l'acharnement nous laissent un peu perplexes, nous étonnent encore aujourd'hui. Il semble que son frère soit irremplaçable, parce que c'est ainsi, et c'est ce qu'elle affirme, avec entêtement. Le philosophe Hegel interprétait cette tragédie par la contradiction entre la loi de la cité, qui donc enjoint Antigone de ne pas enterrer son frère, et l'amour de l'héroïne pour ce frère bien-aimé, qui fait qu'elle doit lui rendre les honneurs funéraires. Pour Lacan, les choses sont un peu moins simples. Il lit dans l'affrontement entre Créon et Antigone l'opposition d'un tort et d'une passion. Créon, pour lui, s'égare, car la loi qu'il impose dépasse toute limite. Antigone, quant à elle, est poussée en avant par sa passion. Elle prend tous les risques et elle en paie le prix, et c'est dans cet extrême qu'elle est inhumaine. Que veut-elle? Elle pose la question de la loi, à la fois la sienne et celle des autres. C'est au moment où elle désobéit à une loi, donc la loi de la cité, qu'elle trouve la loi de son désir à elle. Elle brûle tous ses vaisseaux, et sortant du rang, elle devient elle-même, c'est-à-dire un individu hors ligne. Car Antigone est libre, elle traverse toutes les déterminations qui pèsent sur elle, et elle prend une décision porteuse d'une coupure. De façon autonome, elle est alors à elle-même sa propre loi, au-delà même de ses intérêts, puisqu'elle ne pense aucunement à son avenir. Elle va jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et une fois enterrée vive, elle entre dans ce que Lacan appelle l'entre-deux-morts, c'est-à-dire une mort vécue de façon anticipée, empiétant sur sa vie, tandis que sa vie elle-même déborde sur sa mort. Donc c'est un concept nouveau, enfin qu'il a trouvé à ce moment-là quand il commentait Antigone, c'est cette histoire d'entre-deux-morts qui concerne donc le héros, enfin en tout cas cette héroïne-là, mais de façon plus générale, les héros. Donc, Antigone va jusqu'au bout de son désir, et par son acte, elle choisit ce qu'elle est, à savoir, nous dit la pièce, la gardienne de l'être du criminel. Car ce destin morbide, qui est le sien, prend son sens en référence à sa famille. Une drôle de famille, il faut bien le reconnaître, assez loin des standards, définie aujourd'hui par une petite bourgeoisie proprette et rangée. En effet, Antigone et son frère, en tant qu'enfants d'Édipe, sont le fruit d'un désir incestueux et criminel qu'elle assume une fois Polynice disparue. Il est clair que ces gens sont tous quelque part un peu fêlés. Antigone, par sa mort volontaire, immortalise le destin de sa lignée et inscrit en même temps sa marque personnelle dans celle-ci. Alors la question c'est, en quoi tout cela nous concerne-t-il ? Alors le commentaire effectué par Lacan de cette pièce de Sophocle tisse ensemble donc le désir, le destin, le tragique et la loi. Alors, ça peut paraître un peu lourd, mais tendons l'oreille, ce que Lacan dit intéresse tous ceux qui fréquentent un divan. Car, et c'est là qu'il veut en venir, l'expérience psychanalytique ressemble à la tragédie. Bon, je dis ça en souriant, parce que bon, c'est un côté un peu comme ça, un peu effet de chapeau. Mais Lacan pense qu'elle met en jeu le désir dont l'essence même, pour lui, est d'être extrême. Je cite, « Antigone nous fait voir le point de visée qui définit le désir, dit Lacan. » Donc le but de l'analyse n'est certainement pas d'être mieux adapté, plus productif en entreprise ou plus riche que son voisin. Lacan ne plaisante absolument pas. Pour lui, être en analyse, c'est s'affronter au désir, donc le sien propre, tenter de le connaître, de le mettre en acte, et c'est aussi, dans une certaine mesure, faire face à la mort, dans ce qu'elle peut avoir de plus présent et de plus actualisé dans la vie de chacun. Donc il ne s'agit pas d'une promenade de santé. On est prévenu. Après une telle épreuve, on comprend que celui ou celle qui s'est allongé sur un divan avec quelques constances soit différent, réduit à sa particularité dans ce qu'elle a de plus intime et de plus irréductible. Il ou elle déchiffre seul la loi de son désir, la clé de son destin, à condition toutefois qu'il soit prêt à en payer le prix. Et la seule éthique, selon Lacan, est alors une éthique du désir qui, mais cette question fameuse qu'il posait ainsi, « Avez-vous agi conformément au désir qui vous habite ?» Dès lors, on n'est coupable de rien d'autre que d'avoir baissé les bras. Aux 10 commandements de la Bible, Lacan en ajoute donc un 11e, « Ne cède pas sur ton désir. » Bigre, voilà des siècles de culpabilité judéo-chrétienne balayée d'un revers de main. On en frémit. Mais le chemin que montre Lacan du doigt peut paraître tout de même bien escarpé. Parce que tout de même, se montrer à la hauteur de son désir et le faire advenir comme destin, ce n'est quand même pas à la portée de tout le monde. Peut-être voulait-il, au fond, faire des analysants, des héros. Dans ce cas, il est peut-être plus facile de se complaire dans la névrose, qui par nature ne sait pas ce qu'elle dit ni ce qu'elle fait. Ah, l'insoutenable légèreté de la névrose. Alors je vais passer à une autre héroïne plus contemporaine, qui va peut-être nous parler davantage, qui est Signe de Coufontaine, donc héroïne d'aujourd'hui, que Lacan a commenté également. Donc elle est plus contemporaine, on verra pourquoi après, et elle est tirée de la pièce de Claudel qui s'appelle « L'otage ». Rien que son nom, Signe de Coufontaine, n'est pas à piquer des vers. Retraçons son histoire en marchant sur les pas du psychanalyste. Donc, Signe de Coufontaine, c'est une femme qui est un petit peu vieille fille, elle est noble, et elle a été dépossédée de ses biens par la Révolution. Elle consacre sa vie à remembrer le domaine familial, elle est amoureuse de son cousin, qui un soir arrive à la maison avec le pape en personne. Et voilà un autre personnage qui entre en scène, qui est lui aussi affublé d'un nom pas possible, puisqu'il s'appelle Toussaint Turlure. Toussaint est laid, cynique, et pis que tout peut-être, roturier. Quelle horreur! Voilà deux êtres que tout sépare. Elle est donc royaliste, il est républicain, elle est issue d'une bonne famille, il sort de nulle part. Pour résumer, cette histoire est une sorte d'autant en emporte le vent qui tourne mal. Et Toussaint, cet être méprisable et vil, menace Signe de livrer aux autorités le pape, donc elle héberge le pape sous son toit, à moins qu'elle n'accepte de l'épouser. Là, un curé intervient, parce que sinon, on s'en doute, Signe aurait refusé. En acceptant, lui dit-il, elle sera l'agent d'un acte de délivrance sublime. Il lui est demandé d'assumer comme une jouissance ce qui lui fait horreur. Mais elle doit pour cela faire le deuil de sa raison de vivre, et même au-delà de son être. Pour Lacan, Signe est une sorte d'envers d'Antigone. Si l'héroïne antique est identique à son destin, au contraire, signe, réalise un acte de liberté en allant contre tout ce qu'elle est. À son corps défendant, elle devient donc baronne de Turlure et elle aura un petit Turlure. Ça tourne vraiment mal, si bien que le cousin tente de tuer Turlure, signe s'interpose et meurt. Je vous passe les détails qui sont assez croustillants. Enfin, tout à fait entre nous, moi je déteste Claudel, hein, mais bon, la question n'est pas là. Donc, même si Signe est attachée à la cause perdue de l'Ancien Régime, Signe sait qu'elle se sacrifie pour des idéaux éculés, pour des mots traditionnels et sans force. Donc c'est, en fait, d'une certaine manière, Signe la faillite de l'idéal, et son sacrifice n'aboutit qu'à la dérision de ses fins. Donc tout ça est dérisoire, finalement. Cette œuvre où Lacan lit le leurre et la moquerie est, je cite, l'indice d'un sens nouveau donné au tragique humain. En fait, c'est une version, pour Lacan, c'est une version moderne de la tragédie. Alors, la question c'est, et nous ? Alors, on peut dire que chacun à notre manière, nous sommes un petit peu comme elle, du moins c'est comme ça que Lacan nous voyait, c'est-à-dire un peu flottant, un peu sans projet précis, un peu égaré, et finalement, si vous voulez, un peu comme les héros de Michel Houellebecq. Je vais passer une autre figure de femme, qui est la mystique, qui a beaucoup inspiré Lacan également. Mais maintenant, il faut laisser les héroïnes et passer aux mystiques. Lacan les adore, surtout quand ce sont des femmes. Il s'esbaudit devant Angèle de Foligno, qui, je le dis parce qu'il le dit lui-même, buvait avec délice l'eau dans laquelle elle venait de laver les pieds des lépreux, ou alors Marie à la coque, qui mangeait les excréments d'une malade. On est quand même un peu écœuré. Dans la tradition chrétienne, on donne cela pour le comble de la bienfaisance, et Lacan lance avec humour, l'histoire serait moins édifiante si les excréments étaient ceux d'une belle jeune fille, ou s'il s'agissait de manger le foutre d'un rugbyman. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça d'un style quand même assez frais. Évidemment, cela pose la question de la morale chrétienne, qui est tout de même assez spéciale. Qu'est-ce qu'un amour qui va viser l'autre jusque dans son déchet ? En fait, d'après Lacan, ces modèles de vrai amour ne sont rien d'autre que des formes de perversion. Cette dernière est peut-être la seule façon d'aimer l'autre comme soi-même, ainsi que nous l'enjoint la religion chrétienne. Devant ce commandement exorbitant, impossible, Freud reculait, et on le comprend, il cache une indicible cruauté, puisque derrière tout commandement, toute loi, il y a toujours un objet pathologique, un objet du désir caché. La seule façon d'aimer l'autre, c'est par le biais de cet objet que l'on peut être tenté de lui prendre, de lui arracher, ce qui implique de le réduire en morceaux, et de réduire en morceaux un prochain qui aurait dans ces conditions peut-être préféré rester à distance. Revenons à la mystique. Lacan s'intéresse à la mystique qui aime l'autre, mais aussi à celle qui aime Dieu au point d'en jouir. La statue de Sainte Thérèse, réalisée par le Bernin, elle est exposée à Rome et elle est sur la couverture d'un des séminaires de Lacan, le montre, elle est en train de jouir. Savoir de quoi elle jouit est déjà beaucoup plus obscur, et le témoignage des mystiques montre qu'elles n'en savent rien. Le no man's land de leur plaisir est évident. Cette extase d'une autre nature que la jouissance entre guillemets « ordinaire » veut dire qu'elle est, entre guillemets, autre pour elle-même. C'est un mot de Lacan, évidemment. Mais n'est-ce pas le cas de la plupart des femmes, même celles qui ne sont pas des mystiques ? C'était l'arrière-pensée de Lacan, c'est qu'en fait, c'était le cas de la plupart des femmes. Pas toutes, évidemment. Puisque, selon le psychanalyste, je cite, « les femmes en rapport à Dieu, finalement, Dieu ne serait-il pas, au fond, le véritable partenaire de la jouissance féminine ?» Par parenthèse, cette autre jouissance évoquée par Lacan, paradoxale, énigmatique, folle parfois, est une aventure à la fois érotique et poétique et n'est pas l'apanage des seules femmes. Certains hommes, des mystiques mais aussi des poètes, à l'exemple de Saint Jean de la Croix, Nerval ou Proust, peuvent y accéder aussi, mais à condition, précise Lacan, d'être doués. Comme il faut reconnaître que peu le sont, beaucoup n'y parviennent pas. Alors maintenant, développer un peu certains points, je vais parler de la femme et de l'homme. Donc on l'a vu à travers certaines vignettes ou considérations que j'ai pu reprendre ici, l'homme et la femme sont d'une espèce différente. C'est une banalité et pourtant elle ne cesse de nous étonner. La ligne de démarcation entre les sexes n'est pas une mince affaire et dire qu'elle est culturelle n'épuise pas tout. En fait, elle est liée à la langue qui est sexiste. Car pour Jacques Lacan, il n'y a pas dans l'inconscient de mots, donc de signifiants, qui permettent de penser l'homme et la femme. Aussi, quoi qu'on fasse, on est toujours en exil de notre identité sexuelle. Bref, on pourrait tous déclarer au douanier immortalisé par l'humoriste Fernand Reynaud « sexualité apatride ». Sexualité de point apatride, quand le douanier nous pose la question. La seule chose que l'on puisse penser entre les sexes, c'est un mot, un signifiant tout seul, que Lacan désigne comme le phallus. Et celui-ci ne doit pas être confondu avec le pénis. Le pénis, il y a ceux qui l'ont, les hommes, et ils ne cessent de justifier qu'ils le possèdent, par exemple en s'acharnant à acquérir de l'argent, du pouvoir, de la gloire. Si l'on suit Lacan, celles qui ne l'ont pas, les femmes, le revendiquent, enfin certaines le revendiquent, « je veux une maison, de l'argent, des bijoux, etc. » ou parfois elles tentent de l'incarner en privilégiant l'être sur l'avoir. On ne peut s'étonner alors que la femme souvent se fiche de l'avoir, tandis que l'homme, dûment doté d'un appendice, soit davantage conservateur. Voilà peut-être, là c'est moi qui m'aventure dans des considérations qui sont un peu extérieures, mais ça peut être un certain intérêt, voilà peut-être pourquoi les femmes, moins ancrées dans la possession, votent davantage que les hommes en faveur des idées dites de gauche, c'est-à-dire favorables au partage des richesses, enfin au moins en théorie, puisqu'elles n'ont pas, elles n'ont pas peur de perdre. Le phallus, contrairement au pénis, il y en a, et il n'y en a pas pour tout le monde, affirme Jacques Lacan. Il circule entre l'homme et la femme, et selon la psychanalyse, il est l'enjeu de leur rapport. Le trajet normal, entre guillemets, pour un petit garçon, c'est de renoncer à être le phallus qui manque à la mère, et s'identifier au père qui, lui, l'a. Pour la fille, c'est un peu plus compliqué, c'est non seulement abandonner l'idée de l'être pour la mère, donc d'être le phallus pour la mère, mais aussi accepter de ne pas l'avoir, puisque voilà, elle ne l'a pas, pour plus tard le recevoir d'un homme sous l'aspect de son sexe, ou enfin du sexe de l'homme, ou d'un enfant qui lui fera. Donc c'est plus compliqué pour la femme, hein. On voit que quand même... Donc chacun se débrouille de toute façon comme il peut avec cet avoir et ce non-avoir. Certains se sont gaussés du phallocentrisme lacanien, puisque sa pensée de la différence sexuelle tourne autour du phallus, mais c'est négligé que dans la pensée du maître, les choses ne sont pas aussi simples. Un homme peut très bien décider d'être et une femme d'avoir. Il y a donc un choix du sexe pour les hommes comme pour les femmes, ou plus exactement pour les mâles comme pour les femelles. Le sexe du sujet n'est pas nécessairement le sexe de l'état civil. Être homme ou être femme n'est pour lui rien d'autre qu'une décision. Et ce choix n'est pas sans conséquence. Les hommes qui l'ont rentrent dans un universel. Ils sont tous les mêmes, sauf ceux qui sont différents. Et c'est à partir des seconds qu'il faut appréhender les premiers. L'exception confirme la règle, pose Lacan. Il y a d'un côté la généralité, le « tous les hommes », donc les hommes en série, et de l'autre, il y a celui qui ne fait pas partie de la série et qui sort du lot. Ce qui rend possible pour tout homme, donc la série des hommes, c'est que le père s'en excepte. Il est en position de hors-la-loi, comme le père freudien de Totem et Tabou qui possède toutes les femmes et que ses fils finissent par tuer. Donc, pour simplifier un peu cette affaire, pour Lacan, l'exception, c'est quelque chose de très important, au point de déterminer tout le reste. Lui-même, d'ailleurs, a été hors série, père d'une horde analytique qui a entraîné, au fil des années, des processus de censure et même d'excommunication de la part de l'institution psychanalytique nationale, puis internationale. Il est vrai qu'il a refusé, enfin Lacan a refusé de se plier aux règles qui acceptent les autres psychanalystes. Il a été mis à la porte, alors lui-même disait « excommunié » en ajoutant « comme Spinoza ». On voit que la modestie n'étouffait pas. Il a créé donc sa propre école en 1964, et pour ce faire, il a lancé le 21 juin de la même année la très gaulienne apostrophe, restée célèbre, « Je fonde, aussi seul que je l'ai toujours été dans ma relation à la cause analytique, l'école française de psychanalyse ». Donc, il a commencé, il a fondé quelque chose en position d'exception, et d'autres, certains ont suivi. des séries de gens ont suivi. L'exception, on le voit, enfin pour lui en tout cas, est fondatrice. Il est alors dans l'ordre des choses que cet homme hors norme s'intéresse à l'exception et tente de la théoriser. Donc certains hommes permettent aux groupes et aux sociétés de se constituer, mais selon Lacan, c'est tout de même du côté du féminin que l'exception prend vraiment son sens. Car les femmes sont toutes différentes, au point même que l'on ne peut pas dire qu'elles soient exceptionnelles, car il n'y a pas de norme de la femme. Quand Lacan dit que la femme n'existe pas, phrase très connue, « la femme n'existe pas », cela signifie qu'il n'y a pas de généralité de la femme et qu'elle n'entre dans aucune série. On peut dire qu'il y a la République, la mort, l'espérance, mais pas la femme. Donc l'exception chez l'homme se trouve chez le père ou chez la femme. Autrement dit, l'homme ne ressemble à la femme que sous le versant de l'exception. Exemple, bon, un exemple parlant, parce que ça, sinon ça peut sembler un petit peu comme ça théorique, on pense à Louis XIV. Louis XIV était autoritaire, paré, courtisé, au moins c'est comme ça qu'on se le représente. Il tenait clairement le rôle de la plus grande folle de Versailles, même s'il aimait les femmes, mais la question n'est pas là. Voilà, en conclusion, j'ai tenté de parler des femmes, plus exactement de quelques femmes, de sorte, ben voilà, de femmes, de prototypes de femmes dans Lacan. La question c'est que nous enseigne-t-elle ? Alors bien des choses sur le plaisir, sur l'exception, sur le désir et aussi sur l'héroïsme. S'il faut retenir une seule chose sur les femmes à travers Lacan, c'est ceci, la femme n'existe pas. Autrement dit, elles sont toutes différentes et on peut croire que c'est un bel hommage rendu là à ce mystère qu'est la féminité. Voilà, j'ai fini. Alors en fait, j'ai les références de différentes choses. Je n'ai pas voulu vous les lire à chaque fois parce que ça aurait rendu les choses peut-être un peu lourdes. Mais si vous les voulez, je vous les donne afin que vous puissiez travailler les textes par vous-même ou compléter certaines choses ou me prouver que j'ai dit beaucoup de bêtises avec mes histoires transversales qui m'amusent beaucoup. Et j'attends vos questions. Ou vos remarques. Bon, vous ne sentez pas obligé, mais j'espère toujours que quelqu'un dise « Oui, mais alors ce que vous avez dit là, c'est parfaitement faux, parce qu'il faut prendre les choses autrement, et puis ça lance une sorte de débat. Alors, vous avez dit ça, mais en 1962, Lacan a dit que... » Enfin, vous voyez, donc j'anticipais ce moment où il faut sortir le sabre et commencer à débattre. Non ? Bon, ben, puisque c'est comme ça... Oui, enfin quelqu'un.
On parle du féminin ou de la féminité ?
Quelle différence vous faites alors ?
Le petit cahier, vous.
Oui, mais c'est pour ça que je fais parler madame, parce que. C'est pour ça que je fais parler madame.
Pour moi, le féminin, c'est plus intérieur. Et la féminité, c'est plus la norme extérieure.
Ben, je pense qu'il parle des deux, en fait. Enfin. Je suis pas sûre que pour Lacan, il y avait vraiment un intérieur et un extérieur, vous voyez. Enfin, les deux devaient être la même phase de la même chose. Vous voulez dire la féminité comme construction sociale ou comme... Je pense que pour lui, la question se posait pas exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre le... Enfin, je voulais les deux se tiennent, mais effectivement, bon, on peut considérer qu'en effet, le fait d'être une femme est une construction. Mais enfin, en même temps, il y a quand même un sexe biologique, en fait. Donc je pense qu'il voyait les choses les choses sont un peu nouées pour lui, en fait. Enfin, sa réflexion sur la femme dépasse un petit peu ce clivage, bon, qui existe, en fait. Mais donc, à mon sens, dont il s'est servi pour le retravailler autrement. Ben non, écoutez, on peut pas parler de tout, hein. Peut-être dans un autre épisode ou l'année prochaine. Oui, c'est juste, effectivement. J'en ai pas parlé, mais enfin bon, on peut pas tout évoquer non plus, mais c'est vrai que oui, bah c'est pas, j'ai pas une sorte de, j'ai pas une passion pour la castration, moi. J'ai pas vraiment une passion pour ça, parce qu'en fait, enfin, si vous voulez, c'est une sorte de concept un peu mou, et on met tout et n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai vraiment délibérément évité, et je pense que je dois pas être super à l'aise avec cette affaire. Donc, mais c'est vrai que ça nécessiterait, puis bon, après tout, là, on parle des femmes, alors, on s'en fiche un peu de la castration, c'est une question de mec, ça.
Peur, on envoie un connard.
Oui, voilà. Probablement, oui. Non, puis bon, c'est vrai qu'il y a une histoire un peu chargée du concept, faut vraiment aller puiser dans Freud, mais oui, ça mériterait en effet. Vous voyez, Annie, vous avez un sujet, vous pourriez faire l'année là-dessus.
Oh, le matin, j'ai évoqué ça.
Oui, bien sûr, hein. Évidemment. Oui.
Enfin, sans cesse, dans la répétition des choses.
Ben, non, mais c'est-à-dire qu'il faut tirer les fils de façon différente, voilà. Sans forcément répéter, mais enfin, voilà. Tirer les fils pour que, voilà, pour que
faut
ça...
Ah
ben merci beaucoup. J'ai fait volontairement parce que la psychanalyse n'est pas uniquement quelque chose d'austère, ça peut être quelque chose d'assez amusant et une façon de voir les choses qui, à mon sens, est fraîche en fait. Et dans Lacan, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il a des commentaires de textes qui peuvent paraître un peu usés, comme Molière, comme les pièces de la tragédie, bon, qui sont un peu. C'est vrai que bon. On se dit soi-même qu'on a tous une idée vague de ce qu'il y a dedans, puis qu'on n'a pas forcément envie d'y replonger. Et c'est vrai qu'il a quand même une sorte de génie pour dépoussiérer tout ça et montrer ça sous son aspect vraiment... Enfin, pour redonner un peu le vif, en fait, des grands textes. Et le vif des grands textes, c'est d'être tranchant et de choquer, finalement. Et c'est ça que j'aime, moi. C'est des beaux commentaires qui montrent un peu, finalement, le côté étonnant. Parce que si ça a traversé le temps, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose là qui nous concerne, en même temps qui nous gêne. Et c'est ça que je trouve vraiment merveilleux, c'est je trouve les commentaires de Lacan, enfin grandes œuvres, hein, ça peut être vraiment même des choses ultra connues comme le banquet de Platon ou d'autres. Et c'est vrai qu'on est quand même sidéré par la fraîcheur avec laquelle il arrive à rendre ça, quoi. Donc c'est assez étonnant. Oui.
J'ai une question par rapport à la série et...
Oui.
Je pense que c'est juste, mais... je me demande si aujourd'hui, justement, avec ce mouvement féministe globalement, il n'y a pas un désir de faire partie de la série de la part des femmes. Parce que c'est vrai que l'homme est une série en tant qu'être social, c'est le problème du crayon dans qui va de toute façon.
Oui.
Et s'il n'y a pas un désir de la femme de faire partie de la série avec la revendication.
Oui, mais c'est très juste, oui.
C'est
très juste. Vous posez une très bonne question, et en effet, mais d'ailleurs, enfin, quand Lacan dit qu'elles sont toutes différentes, ça signifie aussi qu'elles peuvent, si elles le souhaitent, faire partie de séries.
C'est pas ça, je pense.
Ah si, moi je pense que si. Mais c'est.
C'était la caractéristique des femmes d'être justement.
Bah si, c'était... parce qu'il y a toujours eu quand même des séries de femmes, la mère au foyer...
Les séries, c'est dans le social,
Bah quand vous êtes mère au foyer, vous êtes quand même dans le social, enfin vous y échappez pas quand même.
On est par la généalogie humaine, on est dans une...
Ah, moi je vois pas les choses comme vous. Non, parce qu'en fait, moi, la manière dont j'entends ça, mais...
C'est la mère.
Oui, mais vous êtes quand même dans la série des femmes au foyer, comme il y en avait quand j'étais petite. Il y avait beaucoup de mères qui étaient des mères de famille au foyer.
Alors, il ne faut pas dire qu'il y a pas de, que la femme n'existe pas, parce qu'il y a aussi une série des femmes à ce moment-là.
Non, mais est-ce que
le problème n'est pas dans ce sens-là.
Ben non, mais moi la manière dont je le comprends, mais ça, on pourra en débattre des heures, c'est que je crois qu'en fait, en effet, la femme peut rentrer si elle le souhaite dans une série. Mais qu'elle, elle, les séries ne sont pas données d'avance, alors que pour les hommes, si, c'est par nature, ils rentrent dans des séries, il y a des exceptions.
Ah non,
c'est pas par nature. Bah, par nature, les femmes peuvent... Si, enfin, moi je pense qu'elles ne sont pas toutes exceptionnelles, elles ne sont pas toutes différentes, enfin... Non, mais oui, ça, beaucoup plus, bien entendu. Non, mais enfin, il y a quand même des séries de femmes, si vous voulez. Écoutez, il y a quand même des femmes au foyer, il y a des femmes en entreprise qui sont quand même, qui se ressemblent.
Une femme en entreprise, c'est une fonction sociale. On n'est pas dans la... Quand on parle de femmes, on ne parle pas de citoyennes. On ne parle pas de la même chose, tout à fait. Quand Lacan parle de la femme, il parle de la femme dans le monde social. Mais il ne parle pas de la citoyenne. Donc on est dans deux notions différentes. L'égalité citoyenne, c'est pas, il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme, puisque ce sont deux êtres différents.
Oui, mais...
Entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'égalité, mais entre les citoyens et les citoyennes, il y a l'égalité. Donc on est dans des domaines différents.
Non, mais... Oui, mais ça se traduit quand même de façon concrète. Enfin, je veux dire...
Ça se traduit seulement.
Oui. Non, si vous voulez, pour revenir au truc, moi, la manière dont je l'entends, mais je reconnais que on pourrait en débattre des heures, c'est qu'en fait, la femme peut faire partie de séries. Voilà. Non, mais ça ne signifie pas qu'elles sont toutes exceptionnelles et toutes différentes, si vous voulez. Enfin, il y a... Oui, c'est là que je...
En tant que femme, il y a un enfant, pas citoyen. Donc, elles vont venir. Mais bientôt, avec... De toute façon, bientôt, quand on va faire des enfants, des trouvettes et tout ça, donc, il n'y aura plus besoin.
Il n'y aura plus besoin qu'elles soient différentes.
La féminité et tout ça, on n'aura plus besoin, on n'aura même pas besoin de copuler ensemble pour produire l'humanité. Donc ça se fera en laboratoire ou en usine, comme une poubelle. Mais on s'oriente là-dessus. Donc on est vraiment, on va être tous séries, quoi. Un peu comme fourmis, mâles et femelles, abeilles, mâles et femelles.
Oui, mais c'est une vaste question. C'est vrai qu'effectivement, oui, les conditions de la procréation vont peut-être changer en effet la donne, oui.
Donc, femme et homme, on est...
Mais je, enfin oui, non, mais c'est vrai, c'est une très bonne question, mais j'ai pas de réponse en fait, je ne sais pas. Pardon ?
Traditionnellement, nous les mecs, on est beaucoup plus enclins à devenir des fourmis.
Oui, voilà, en gros, c'est le sens du truc, ouais.
Et vous arrivez maintenant, donc ensemble, on va devenir des fourmis, ça c'est sûr.
Ce que vous dites là est terrifiant.
Pas terrifiant.
Pas vraiment, non. Mais en êtes-vous sûr, vraiment ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a aucun espoir ? Non, mais il y a aussi des hommes exceptionnels, mais qui sortent de la série.
Non, c'est pas le problème.
Ah bah si, ça joue quand même. Non, je crois pas, parce qu'il y a quand même aussi des hommes d'exception.
Bien sûr, moi, par exemple.
Mais j'en doute pas une seule seconde.
Non,
mais je veux dire, il y a eu quand même... Il y a des hommes exceptionnels. Qui fondent, précisément.
Non, mais c'est pas le problème.
Ça a quand même une certaine importance dans l'histoire. Oui, non, mais pas. Prenons un type.
Hommes-femmes qui sont psychanalystes, qui sont des rapports hommes-femmes qui ne sont pas forcément des rapports de citoyens et citoyennes. On est dans le rapport intime, on n'est pas dans le rapport citoyen, dans le boulot, etc.
Oui, je vous suis bien. Mais pour moi, cette histoire de différence hommes-femmes avec les hommes dans les séries et les femmes qui sortent des séries, ça n'empêche qu'il y a quand même des femmes en série. Mais c'est pas l'exception qui fonde. C'est contrairement aux hommes, c'est pas l'exception qui fonde des séries de femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas d'homologie entre les deux. Ah non, mais pour lui c'est pas un truc logique. Enfin, si c'est un truc logique, mais il y a une grosse différence entre les hommes d'une part et les femmes. Oui, non, mais ça, que vous soyez conservateur, Non, mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, mais encore une fois, je pense que c'est très ouvert à débat. En fait, pour l'homme, c'est l'exception qui fonde des séries d'hommes, puisque pour lui, il y a des hommes en série. Bon. Alors que chez les femmes, étant donné qu'elles sont beaucoup plus différentes, c'est pas les femmes qui sont différentes de la série qui fondent des séries de femmes. Voilà. On a quand même... Il y a pas, non, mais il y a quand même il y a quand même des séries, mais qui sont pas fondées par l'exception. Moi, je tiens que il y a quand même des groupes ou des classes de femmes qui sont entre guillemets normales. Mais ça détermine pas le.
Non, mais.
C'est pas.
Comment elle se situe, elle, par rapport au monde ?
Mais il y a quand même. Non, non, toutes les femmes ne sont pas exceptionnelles et différentes. C'est pas ça qu'il a voulu dire. Il a voulu dire qu'il n'y avait pas cette espèce de séparation entre la série et l'exception comme chez l'homme. Voilà. Et que les femmes sont potentiellement beaucoup plus différentes et qu'il n'y a ni série. Et comme il n'y a ni série ni exception, enfin, les deux se tiennent. Quand il n'y a pas de série, il n'y a pas d'exception, et vice-versa. Voilà. Mais enfin, bon, on pourrait en faire un colloque. Hein. Qu'est-ce que vous appelez la mère phallique ? Bon, alors, si vous ne savez pas ce que c'est, oubliez. Parce que il y en a dans les magazines féminins. Et en fait, ça me concerne assez peu, la mère phallique. La mère phallique, je sais pas, là, j'ai parlé un peu de la mère. Donc, la mère qui garde son enfant, donc qui est très proche de son enfant, parfois trop proche, enfin, en tout cas pour la psychanalyse, et qui considère qu'en fait, l'enfant est une partie d'elle-même, sachant que le trajet normal pour un enfant, c'est de se déprendre de tout ça, enfin, du désir de la mère pour trouver son autonomie. Enfin, la mère phallique, ça fait un peu, bon, voilà, ça fait un peu penser à certains concepts un peu éculés, bon, vous voyez, donc en fait, à vrai dire, ça m'évoque pas grand-chose, donc, peut-être d'avoir des choses, effectivement, on devrait pouvoir chercher dans la mère phallique, mais moi, ça me parle pas beaucoup, donc, voilà, mais enfin, surtout, si vous savez pas ce que c'est, après tout, oublions-la, qu'elle retourne, là, dans les coulisses, on s'en est pas occupé aujourd'hui, alors, on s'en est très bien passé, donc continuons à nous en passer. Oui.
Par rapport à la série, c'est comment elle se débrouille la femme ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de règles.
Vous avez demandé à monsieur aussi, parce que c'est un spécialiste des séries d'exception.
Comment elle se débrouille, alors que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de règles qui définissent ou déterminent la femme. Quand on est petite, on dit la fille. Alors, tout de suite, on a l'impression qu'on peut cadrer la fille, dire la fille a ceci, la fille a pas ça, la femme. Enfin, beaucoup de règles comme ça qui s'imposent. Et comment elle se débrouille alors pour devenir hors série, comme elle fait pour ne pas exister, alors que j'ai l'impression qu'on lui projette beaucoup plus de choses. Il y a des garçons qui sont normales, on lui projette déjà beaucoup de choses qu'elle ne pourra pas échapper.
C'est pas faux ce que vous dites, effectivement, oui. Mais ça prouve justement que toutes les femmes ne sont pas hors série et que. Et qu'il y a aussi quand même une sorte... Alors, monsieur disait que non, mais il y a quand même une sorte de norme, même si elle est construite socialement, mais il y a une norme, enfin, bon, qui est socialement imposée, qui est imposée sur la femme, en effet, oui. Non, mais c'est juste, effectivement, je pense que c'est assez vrai.
Là, qu'on dit qu'elle n'existe pas, alors j'ai l'impression qu'elle existe... forcément, quand on la projette sur la petite fille, donc c'est que la femme, quand on reçoit, on a tous un portrait de la femme, on a tous un... ce qu'elle doit devenir quand elle est petite fille. Ce qu'elle doit devenir, donc ça c'est bien quand même une image de la femme qu'on lui projette. Et comment elle se débrouille face à ça?
Oui, c'est une bonne question, effectivement, mais je sais pas, effectivement, comment elle se débrouille face à ça, finalement. Bah mal, sûrement. Je sais pas, ouais. C'est vrai, oui, effectivement, c'est une contradiction intéressante, mais c'est juste, effectivement, oui. C'est juste, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous avez entendu la question de monsieur, elle est intéressante, hein, quand même. Bah si, ça a quand même, ça a quand même à voir, enfin, je veux dire... Oui, mais justement, la question de monsieur, c'est comment il fait pour y échapper un peu plus, alors qu'il y a plus de pression sociale, enfin, en tout cas, dans certains pays, dans certaines cultures, que sur l'homme.
Et pourquoi la femme arrive à dire qu'il y a pas de pression
sociale? Traditionnellement, le travail n'est pas la femme.
Oui, enfin, ça, c'est quand même...
Un rôle social, un rôle politique, oui, c'est pas impliqué que n'a pas la femme.
Non, mais ça, c'est pas vrai, enfin, si je puis me permettre, ça a été vrai historiquement, mais pendant une très brève période du temps. Avant, les femmes travaillaient comme les hommes et aujourd'hui, elles travaillent à nouveau. Enfin, donc, comment? Pas de la même façon, c'est vrai. Pas de la même façon, c'est juste, oui.
Et nous, on ne porte pas les enfants pendant 9 mois et puis on ne va pas les allaiter non plus. Donc, on n'a pas le même rapport au monde. C'est normal, c'est pas...
Oui, ça, oui.
Ah oui, non, mais c'est pas rien dans la constitution de quelqu'un d'avoir cette différence. La femme, elle enfant. Et c'est pas la même. On ne peut pas avoir le même rapport au monde quand on est comme ça, différemment, c'est tout. C'est pas... Alors, de toute façon, maintenant, les femmes, elles se déguisent en garçon, mais ça fait rien. N'empêche qu'à l'intérieur, c'est pas la même chose.
Oui,
c'est drôle qu'à l'heure que si les femmes se déguisent en garçons.
Mais justement,
elles ont le choix, c'est pas très bien. Oui, tout à fait, mais pas
seulement. Oui, si elles veulent, elles peuvent quand même être dans des séries. Alors, vous allez me dire, c'est social, mais enfin.
Mais je pourrais bien en juste.
Oui, justement, c'est
compliqué, justement. Mais non, mais justement, vous pourriez pas.
Oui, justement, oui.
Vous pourriez pas.
Comment?
Vous ne pourriez pas.
Non, vous ne pourriez pas. Oui, non, des hommes en jupe, il n'y en a pas. Hein. Ne nous mentez pas. Non, mais enfin... Oui, voilà, l'exception, oui. Oui, oui, non, mais d'accord, enfin, ici...
C'est la culture,
c'était pas clair. Est-ce que vous pouvez nous redonner quelque chose? Ce que ça veut dire, au-delà de la réalité, des questions qu'on peut se poser dans une réalité quotidienne, une lecture analytique.
En fait, la manière dont il l'entendait, en fait, on l'a déjà évoqué pas mal. C'est en fait pour lui, il n'y avait pas de série en fait de la femme, alors qu'il y a des séries d'hommes et que les séries d'hommes se définissent par rapport à l'exception. Donc l'homme, en quelque sorte, a le choix, si j'ose dire, d'être soit exceptionnel, soit d'appartenir à une série, sachant que chacun se définit l'un vis-à-vis de l'autre. En revanche, pour la femme, les choses sont différentes. C'est-à-dire qu'il pensait que la femme n'existait pas parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'universel de la femme, si vous voulez. Il n'y a pas de contrairement à l'homme. On en parle depuis tout à l'heure, en fait. C'est pour ça que pas de série. Il n'y a pas de série de la femme, voilà. Il n'y a pas de série de la femme, et donc elles peuvent quand même être entre guillemets normales, mais ça ne définit pas une série de la normalité en fait.
Ça paraît compliqué parce qu'on pense pas tout à l'heure, enfin, vers les choses qui passent tout à fait, c'est par rapport à l'acte qui est une femme pour devenir exceptionnelle, comme pour les hommes en fait. Créer une série, elle-même créer une série, c'est la différence quoi. Ça n'a rien à voir avec l'éducation, peut-être, je vois pas de la même façon.
Non, mais c'est assez juste ce que tu dis, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a moins de séries de femmes, enfin, il y a, même si elles peuvent s'inscrire dans des sortes de trucs assez... mais en même temps, c'est vrai qu'il y a moins, en tout cas, c'est peut-être lié aussi à des raisons culturelles, mais de femmes exceptionnelles, mais qui fondent des groupes et des grands mouvements, il y en a beaucoup moins dans l'histoire que des hommes. Même si on a Saint-Thérèse d'Avila, par exemple, enfin, il y a quand même un certain nombre d'exemples. Mais chez les hommes, il y en a plus, donc il y a plus de séries, mais aussi plus d'exceptions. Et chez les femmes, il y a, pas de série, mais moins d'exceptions aussi, forcément. Enfin, il y a, l'un se définit vis-à-vis de l'autre, donc on peut être, enfin, elles sont toutes différentes, d'accord, mais ça implique qu'elles sont moins dans des séries, mais aussi peut-être moins dans l'exception qui fonde. Enfin bon, c'est...
C'est ça le double tranchant, si tu veux, dans l'histoire, c'est que... Mais bon, ensemble, quand vous n'êtes pas exceptionnel, mais en même temps, vous n'êtes pas...
Oui, c'est possiblement. Quoique, bon, je crois... Non, quand il dit la femme, c'est le tout de la femme. Hein. C'est le tout de la femme. Hein. C'est pas la femme en tant qu'individu, c'est le tout de la femme.
Chacune des femmes existe, mais la femme en tant que...
Voilà, alors qu'il sous-entend que l'homme en tant que... Voilà, c'est ça. Non, mais là, il l'entendait vraiment comme grand prototype. Et ça sous-entend que l'homme existe pour lui. Mais l'homme en tant que grande catégorie, en fait.
Que veut dire le mot exister ? Sortir de soi.
Ben, ça veut dire une sorte de... Moi, j'entends ça comme une sorte d'essence de la femme.
Oui, je comprends. Oui, mais en même temps, c'est ambigu.
Ah oui, moi, de toute façon... Oui, bien sûr. Oui, non, mais bien sûr. Oui, on peut... C'est vrai qu'on peut... Puis ça prête à la spéculation aussi, parce que de fait, c'est vrai qu'il peut y avoir des sens très différents et que ça porte à débat aussi, en effet. Hein.
Ça n'a rien à voir à... avec la notion que la femme s'habille comme un homme. Je dirais que là, on rentre dans des histoires de phénomènes de mode, d'extériorité, d'apparence, on est dans les apparences, mais là, quand il dit la femme n'existe pas, ça n'a rien à voir avec les apparences.
Oui, quoi que bon, moi je me méfie, je suis d'accord avec toi, mais tout de même, quelqu'un qui rentre dans une série complètement...
Comment on vit en société, de toute façon, c'est en société.
Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que
La série des hommes, si on veut le traduire d'une façon un peu différente, la série des hommes, ça fait que les hommes jouent socialement. Ils jouent ensemble, ils jouent au café, ils jouent traditionnellement, ils jouent au café, ils jouent à faire de la politique, etc. Et les femmes, en général, traditionnellement, ne jouent pas à ce jeu-là. Sauf quand les hommes sont trop nuls. C'est-à-dire quand les hommes sont trop séries, justement. C'est pour ça que je reviens à la série.
Oui, ça, je ne suis pas convaincu par votre...
J'ai fait récemment un peu, par exemple, justement, où on dit que la femme est la moins libérée. En Algérie, la première manifestation contre la tégrine, c'est les femmes, pas les mecs. Parce que les mecs sont des séries. Et la femme... On dit à un moment donné, attention là, ça devient dangereux pour le genre, c'est-à-dire pour l'humanité. Et à ce moment-là, elles sortent. Qu'est-ce qui a été cherché le roi à Versailles ? Pas les mecs. Parce qu'il n'y avait rien à manger à la maison. Donc, je crois qu'il faut réfléchir à cette notion-là.
Non, mais l'aspect social, vous avez raison, est quand même important.
Et le mec,
mais là où
il a la parole, va jouer au café.
Oui, non, mais bien sûr, oui, c'est ça, par groupe. Mais
cela dit, cette notion-là, la notion de série, l'homme n'a que la série pour s'identifier, pas la femme. Elle peut s'identifier à elle-même.
Ou alors en devenant exceptionnelle, en sortant de la série, mais c'est toujours une sorte de dualité, alors que la femme c'est différent. En revanche, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que je pense les femmes peuvent rentrer dans des séries et jouer à des jeux de mecs parce qu'elles aiment ça et qu'elles sont comme ça. Donc c'est pas uniquement pour complémenter quelque chose qui marcherait mal. Mais elles ont droit aussi d'aimer ça et de faire de la politique ou de briguer des postes élevés en entreprise. Donc voilà, non, c'est pas uniquement parce qu'ils le font mal. Je pense que comme elles sont toutes différentes, il y en a qui aiment ça et voilà. Et donc il n'y a pas de. Mais pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Il n'y a pas de jugement de valeur. Enfin, je veux dire.
Après, c'est des exceptions aussi qui passent exactement comme les mecs.
J'ai pas compris.
Ça devient la même chose. même approche de la gestion d'une boîte. Bon, bah, je ne sais pas si c'est la même approche, je ne sais pas.
Dans le social, on est du jeu.
Je sais pas si c'est ça que ça fait qu'elles rentrent dans une série, j'en sais rien.
Mais c'est vrai que c'est quand même un vaste débat. Est-ce que les femmes, quand elles font des trucs de mecs, est-ce qu'elles le font comme les hommes ou pas? Enfin, c'est une question, je sais pas.
Il faut les faire dans l'économie, avec la réalité des choses. Elles font pas comme les hommes, elles font comme il faut les faire, comme un acte social avec le réel qu'il faut cultiver, quoi. Une femme qui prend une entreprise, ben elle fait comme n'importe qui prend une entreprise, que ce soit un mec ou une femme, sinon l'entreprise se casse la gueule. C'est pas compliqué. Hein.
Oui, je ne suis pas très convaincue. D'abord, c'est pas le réel, c'est la... D'abord, là, c'est la réalité. Non, mais... D'abord, là, vous parlez de la réalité, vous ne parlez pas du réel. Donc, la réalité, c'est forcément appréhendé... Enfin, je veux dire, c'est pas un rapport direct. Quand vous gérez une entreprise, vous... Malgré tout, on peut y être quand même. On peut y être quand même. Oui, mais enfin bon, ça, quand même, l'identité sociale, ça a quand même un rapport avec...
Chez les hommes, ils nous surpassent en nombre par rapport à des postes clés, on va dire en gouvernance, des entreprises, d'État, etc., etc. Donc, avec le peu d'exemples de femmes qu'il y a, qui doivent effectivement, pour jouer avec les mecs, être à la même table, négocier, elles sont obligées peut-être... d'utiliser les mêmes armes, parce qu'elles s'en sortent pas, sinon elles croulent. Mais on n'a pas suffisamment, d'exemples dans le temps, dans la durée, pour dire s'il y a une femme d'exception avec un certain charisme, comme elle a chez, je prends les hommes politiques par exemple, certains hommes politiques avec un gros charisme et qui ont fait exception.
Oui, c'est juste.
On n'a pas suffisamment d'exemples de femmes dans ces domaines-là pour dire.
En France, on a Jeanne d'Arc. En France, on a Jeanne d'Arc, mais enfin, il y en a quand même beaucoup moins que des hommes. Hein. C'est pas non plus.
Mais bon, c'est pas un problème que la femme soit capable ou pas.
C'est pas ce qu'on a dit là. Hein. On a juste dit que cette dialectique série-exception n'existe pas chez la femme. Donc forcément, il y a moins de séries, mais il y a aussi moins d'exceptions. Enfin, si on suit la logique de Lacan, en tout cas.
Comme il y a les éléments ici, je ne peux pas dire que ça va être comme ça. Il suffit, pour parler l'histoire des ailes de papillon qui battent d'elle et puis ça fait je ne sais pas quoi. Bon, c'est la causée, ça, mais enfin bon. Il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas, de données, comment ça va se faire chimiquement, avec des...
Non, c'est
par rapport au progrès, je veux dire, c'est la question du progrès, le progrès faisant qu'un jour, la procréation, la sexualité ne sera plus, la procréation sera séparée de la sexualité, il n'y aura plus de sexualité, il n'y aura plus de la procréation, il dit trop, je ne sais pas, je ne peux pas, moi, c'est vrai que c'est même possible, différent, mais... Par exemple, demain, de toute façon, ça va être comme ça, je ne fais plus rien.
Mais de toute façon, la différence entre les sexes, elle perdurera même dans votre schéma, là. Non ?
Si c'est comme ça, je ne fais plus rien.
Bon, alors, on verra bien.
On ne sait pas. On verra bien.
Non, on discute toujours autour de la même chose, c'est-à-dire l'exception et la série, mais je pense que c'est un grand débat. Hein. Donc c'est vrai que c'est quand même c'est riche, quoi. On peut en parler des heures. Et,
Est-ce que c'est pas le système économique qui dicte la façon de diriger ? On est obligé de diriger comme des hommes le système pyramidal. Moi j'entends dire que les femmes pouvaient diriger avec un système horizontal. Collégialité, alors que les hommes préfèrent un système pyramidal avec un homme au pouvoir.
Vous avez vu ce qu'on appelle la pyramide?
Est-ce que c'est pas tout simplement une métaphore?
la femme n'existe pas de la part de Lacan. Parce que Lacan, c'est un homme quand même. Et le fait de dire ça comme ça, c'est presque si jamais je mets un nom sur mon désir s'éteint.
Je pense que de toute façon, c'est une phrase qu'on pourra commenter longtemps. Donc en fait, chacun peut avoir sa lecture et probablement elles sont toutes justes. Hein. Mais moi, j'ai plutôt l'idée que ça renvoie à ce qu'on dit là, c'est-à-dire à la différence, enfin en tout cas que Lacan lisait, intrinsèque entre l'homme et la femme. Je pense que ça renvoie plus à ça, c'est-à-dire avec l'idée que l'homme existe, enfin en tant qu'essence de l'homme, mais en revanche, il n'y a pas d'essence de la femme, en fait. Il n'y a pas de définition de la femme. Et qui est liée au fait qu'elle n'a pas de pénis, etc. quoi. Enfin, moi, je vois plutôt ça comme ça, mais je veux dire, c'est peut-être aussi, en effet, une sorte de métaphore. Oui, c'est possible, oui.
Parce que quand même, derrière la psychanalyse, je conçois que ça peut apporter certains éclaircissements par rapport à la psychanalyse. Mais malgré tout, ça disloque quelque part le sujet. On dépouille le sujet. Il y a le sujet homme et le sujet femme. On ne l'analyse pas de la même façon. Et il y a quelque chose qui me gêne, en fait.
Dans
la scission homme-femme telle qu'on l'évoque.
Mm-hmm.
Par rapport à la psychanalyse, justement.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'égalité, en fait. Ah non, non, mais pour lui, de toute façon, je pense que Lacan voyait d'égalité nulle part, en fait. Le sujet était toujours un sujet, en effet, un sujet parlant.
Basiquement, est-ce qu'il envisageait, du coup, d'envisager une analyse pour un homme et une femme avec des méthodes différentes ?
Ah non, ça, je pense pas, non.
Mais pourtant, ce serait une conséquence de ce qu'on vient de dire. Oui, c'est là où ça me gêne.
Bah non, je vois pas très bien le rapport, moi, parce que...
Et justement, un sujet qui échappe à tous, la femme.
Oui, mais chaque homme, enfin, doit toujours soit en petit balai, je vois, mais quand il ne fait pas avoir plus de sens.
J'essaie de rattacher la notion de sujet, le sujet, l'être pensant,
chaque femme est sujet, bien sûr.
Oui, mais on peut entendre. Oui, enfin, de toute façon, oui, enfin, je pense qu'il écoutait. L'idée, c'est d'écouter. L'idée, c'est quand même d'écouter chaque personne comme un sujet parlant. Donc là, il y a quand même une égalité entre tout sujet parlant qui vient voir un psychanalyste.
C'est pas méprisant vis-à-vis de la femme, au contraire.
Oui, c'est relativement méprisant vis-à-vis de l'homme. C'est-à-dire, contrairement à monsieur, moi je pense quand même qu'il ne voulait pas dire que toutes les femmes étaient différentes, mais il voulait dire que les femmes pouvaient rentrer dans des séries et pouvaient s'en abstraire plus facilement. Donc il y a aussi des femmes dans des séries, simplement ça ne définit pas leur essence, si vous voulez. Et donc en tant que rapport entre psychanalyste et sujet parlant, ça ne définissait pas de rapport, puisque la femme pouvait en effet être différente de... ou alors relever d'une série. Donc je pense pas que ça définissait différence d'approche, non. En tout cas, il l'a jamais dit et ça figure nulle part. Donc non, je pense que ça avait vraiment rien à voir. D'autant que je pense que les si tant est qu'il y ait des catégories psychanalytiques, en fait, Lacan se repérait plutôt à travers d'autres structures, c'est-à-dire le fait d'être un névrosé ou un psychotique, par exemple. Enfin, pour le dire de façon un peu brutale, ou alors d'être un hystérique, mais il y a aussi des hystériques hommes ou des obsessionnels. Donc c'est plutôt ça qui détermine l'approche par rapport au sujet parlant. C'est pas tellement que ce soit un homme ou une femme. Même si, bon, en général, les hystériques sont des femmes, et pas toujours. Les obsessionnels des hommes, et pas toujours. Et donc c'est plutôt ça qui... Et c'est ces catégories qu'on peut, de façon brutale... mettre l'une sur l'autre, qui détermine une approche différente de... Et encore qu'on écoute, a priori, tout sujet parlant de la même façon. Mais enfin, on peut dire que les cures d'obsessionnels ou les cures d'hystérie sont un petit peu différentes. Mais pas énormément, mais bon, voilà. Mais encore une fois, il faut prendre les choses avec douceur, parce qu'il y a des hystériques hommes et des obsessionnels femmes. Donc je pense que c'est plutôt ça qui détermine l'approche qu'on peut avoir avec la personne qui parle. Vis-à-vis de la cure, j'entends. enfin, je pense que c'est une des lectures de la chose, effectivement, oui. Je pense pas forcément que c'est ce que Lacan voulait dire, mais c'est ce que certaines féministes contestent, c'est précisément ça, c'est cette lecture-là. En disant, oui, mais si vous dites ça, ça sous-entend que la femme est l'objet et donc elle n'existe pas suffisamment en tant que sujet, quoi. Mais je pense qu'il y a des féministes qui ont eu cette lecture-là, oui, probablement, oui. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a certaines personnes que cette phrase a choqué pour ça, en fait, pour ce que vous venez de dire, oui. Justement, elle n'existe pas, et donc, sous-entendu, elle a moins d'importance que les hommes, quoi. Enfin...
C'est pas parce qu'elle n'existe pas qu'elle a moins d'importance.
Non, 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 mais là je l'entends dans une compréhension dépréciative de la phrase. Mais oui, bien sûr, oui, oui, là, on... Oui, oui, c'est vrai, effectivement, oui. Une autre question, une autre... Non, c'est vrai qu'au début, quand on commence à lire des choses autour de ça laisse un peu perplexe quand même. Moi j'adhère assez à son histoire de différence homme-femme par cette affaire d'exception et de série, mais j'y adhère parce que moi, personnellement, je le ressens comme étant vrai. Donc je reconnais que c'est tout à fait... Mais c'est vrai que chez les hommes, on voit bien qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'on repère quand même les hommes en série et de temps en temps le type qui sort totalement du cadre. Et c'est vraiment, je trouve que c'est évident, quoi. Enfin, ça se voit. Enfin, ça se voit autour de soi.
Des ruptures dans la série.
Je trouve ça visible, en fait. Chez les femmes, les choses sont beaucoup plus subtiles et même des femmes qu'on pourrait croire, entre guillemets, très. Enfin, normal, enfin, même si le terme veut rien dire, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de bougée par rapport à cette espèce de grand escalier mécanique sur lequel sont embarqués la plupart des hommes. Voilà, mais enfin bon, c'est mon ressenti personnel, hein. Je reconnais que ça... Pardon ? Mais non, c'est quand même des qui sont exceptionnels et qui font d'autres choses, quoi. Il y a quand même des grands hommes dans l'histoire qui ont montré que... Oui, 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 non, mais bien sûr, oui. Là, vous avancez bien loin, Antigone. Aujourd'hui, elle pourrait être beaucoup de choses, hein, donc faut pas trop... Oui, oui, voilà. Mais... Non, non, elle parle au nom d'elle-même, en fait. Donc au nom d'un... Oui, mais enfin, qu'elle interprète librement. Qu'elle interprète librement, quand même. Oui, mais qu'elle parle au nom de Dieu, ça me semble discutable, ce que vous dites là. Oui, mais... Oui, mais enfin, ce sont des Israël qu'elle exprime. Non, mais c'est juste, mais enfin, en tout cas, Lacan, enfin bon, à travers... Oui, je vous suis pas... Enfin, non, mais bien sûr, mais enfin, Sophocle commenté par Hegel et Lacan, ça donne autre chose, quoi. Enfin, puis elle-même se réfère à la loi des dieux, mais c'est les dieux de façon générale, en fait. C'est pas un acte religieux qu'elle fait là.
C'est la dimension du sacré, peut-être. Oui, la dimension du sacré, de la généalogie, de la famille.
Oui, c'est ça. Oui, mais c'est quand même la loi de son désir, hein. C'est la loi de son désir, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Oui, bien sûr, oui, absolument, oui.
Au-delà d'une loi unique pour nous,
Oui, oui, c'est
et
ça, oui.
On ne va pas, parce qu'à la fin de la pièce, on regrette de ne pas avoir assumé son désir, justement, au nom de la cité. Parce que dans l'histoire, son fils aussi, il va...
Enfin, l'avantage d'Antigone, c'est qu'on peut en parler des heures et chacun projette... Il y a tout, il y a...
C'est...
Oui, mais enfin, le texte quel qu'il est... Non, mais le texte quel qu'il est n'est pas séparable des commentaires et de des centaines de commentaires. Bah, elle est hors série, précisément,
elle est hors
là.
Série. Créon parle au nom de la série.
Oui, c'est ça, mais elle est hors série parce qu'elle affirme son propre désir.
Absolument, pas Créon. Elle met son désir derrière la série. Il parle pas à son nom propre. Il parle en tant qu'au nom de la cité. Alors qu'elle, elle parle en son nom propre. C'est la différence entre les deux. Donc ça revient sur la série.
Oui.
Oui,
c'est là que, voilà, c'est là qu'on peut...
C'est pas forcément péjoratif.
Bah oui, mais enfin, c'est l'intégriste de son désir. Donc en fait, l'intégriste de son désir, c'est un héros, par définition. Mais c'est pas forcément le héros d'une cause, ça peut être le héros de son truc à lui. Hein. Non, c'est là que je, quand on dit intégriste aujourd'hui, on pense à d'autres choses. C'est pour ça que je... Oui, oui, non, mais absolument. Non, non, mais bien sûr. Mais c'est l'intérêt d'une telle figure, c'est qu'en fait, on peut projeter... Non, mais de toute façon, Antigone, c'est une sorte de test projectif de toute notre culture, parce que tout le monde l'a commenté, puis à travers elle, vous pouvez voir tout. Vous pouvez voir Jeanne d'Arc, une terroriste tchétchène, enfin tout ce que vous voudrez, quoi. Donc c'est assez beau, finalement, c'est que finalement, chacun la voit à sa manière. Oui, c'est ça, c'est une sorte d'attrape. Oui, mais le texte, il est interprétable, quand même. Bon, il a quand même été beaucoup interprété, hein. Il est peut-être pas interprétable, mais il a été quand même beaucoup interprété, donc... Oui, mais c'est ce qui fait l'agrément, en fait. Bon, écoutez, si vous le reconnaissez, c'est que vous êtes honnête.
C'est bien, je vois. Bah, écoute, je te remercie.
Mais, je t'en prie.
Oui.
Ah bah vous avez des textes de vulgarisation qui sont assez bien faits pour certains. Bah moi j'ai écrit un petit ouvrage, mais il y en a d'autres. Ça s'appelle Le divan c'est amusant. Et donc bah c'est un texte de vulgarisation, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont bien faits. Hein. Vous pouvez trouver des bonnes choses. Vous lisez l'anglais ? Il y a aussi des trucs en anglais qui sont bien faits. Il y a un truc qui est très bien en fait. C'est un... À ce moment-là, donnez-moi votre email, je vous enverrai des références. Parce que je pense. Est-ce qu'il y a un thème qui vous intéresse spécialement ?
Très sincèrement, j'ai l'impression que j'ai toujours pas compris la couleur des femmes. Mais.
Ah mais j'ai pas tenté de vous l'expliquer là, hein. J'ai tenté de prendre des figures et puis de... Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire et que le débat sera jamais clos. Hein. Mais c'est spécialement cette question sur la féminité, sur...
Autour de Lacan, vous voulez dire ?
Oui.
Disons que Lacan, au travers de des femmes, selon moi, il vient en espèce d'écho à Freud. Freud termine quand même sa vie en disant... chose que je ne comprendrai jamais, c'est la femme. Mm-hmm. Et si Freud n'y arrive pas, je n'ai pas la prétention d'y arriver, mais j'ai l'impression que Lacan, malgré tout, apporte un certain éclairage qui, pour l'instant, m'échappe.
Oui.
Je suis d'accord. Et j'aimerais, malgré tout, essayer de m'en approcher.
Oui, oui, bien sûr, oui. Ben, donnez-moi votre email, je vous enverrai une petite biblio. Mais vous pouvez vous référer, par exemple, à... vous pouvez vous référer à Geneviève Morel, par exemple, qui a écrit un livre sur... Bon, donnez-moi votre email, je vous... Je pense que... Oui, oui, donnez-moi, je vous donnerai les choses. Oui, oui, je vous mettrai tout, oui. Non, mais je voulais savoir...
La forme est où ?
Euroben.com ? Non, mais enfin, il y a différents thèmes qui peuvent intéresser... Tu te souviens du livre de Geneviève Morel ? Non, ça c'est sa thèse, je crois. C'est un truc sur la féminité, en fait, qui est assez bien fait. Et il y a aussi Marie-Christine Hamon qui a travaillé sur ces sujets. Mais je vous mettrai ça, enfin sur la femme, autour de la femme, quoi, plus précisément, hein, parce que sinon on se... Je connais. Ça me dit que j'ai pas lu ce livre. C'est dans une optique lacanienne ? Non, mais je demande ça parce que c'est... Je demande ça parce que c'est la question de monsieur, hein. Non, mais c'était la question de monsieur, hein. Non, mais attendez, c'est la question qu'il a posée, c'est pas moi, je demande parce que... Ah voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Exactement, oui. Il y a aussi un livre de Marie-Christine Hamon qui était bien fait sur la féminité. Ça doit se trouver en bibliothèque. H-A-M-O-N. Mais là, j'ai oublié le titre, en fait. Mais ce Marie-Christine... Cherchez Marie-Christine Hamon, je pense que vous trouverez. Elle écrit un livre bien fait sur les femmes, la psychanalyse, à travers la psychanalyse et notamment Lacan.
Pas ce que la femme veut, parce que la femme
ne veut
pas,
c'est ce qu'une femme veut. C'est de qui? Voilà. Mais pas Marthe. Non. Même ça ne me disait rien, donc je me disais que ça devait pas être celle-ci. Bon, ben, sauf si vous avez d'autres questions, si vous voulez des références, le texte que j'ai cité, ou...
Merci beaucoup.
Merci.